C'est une histoire de géopolitique.
C'est le géopolitique.
C'est une histoire de
géopolitique.
C'est
le cœur de la géopolitique.
C'est le géopolitique. C'est une histoire de géopolitique. C'est une histoire de géopolitique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Géopolitique, un nouvel épisode un petit peu particulier puisque nous avons aujourd'hui un invité autour de la table. Yves Deloye, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de pouvoir vous interviewer aujourd'hui et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour discuter de l'enseignement supérieur, un thème large et c'est pourquoi je vais commencer par décrire les différentes périodes de notre interview. Nous allons commencer par discuter de la formation des élites, mais nous parlerons aussi de la recherche en sciences politiques, tout comme de l'engagement étudiant, puis des politiques d'internationalisation, tout comme des études internationales. Seront au programme aussi les inégalités socio-économiques, puis la politisation des campus. Nous allons commencer sans plus tarder avec une rapide biographie de notre invité. C'est la règle de 3.
Tout à fait, en effet, si on devait résumer Yves Deloye, ce serait plutôt difficile, mais je vais tenter de faire un état des lieux en 3 points. Donc après des études à Paris, Yves Deloye publie une thèse intitulée « La citoyenneté au miroir de l'école républicaine et de ses contestations, politique et religion en France, 19-20e siècle ». Celle-ci est dirigée par Pierre Birnbaum, lui-même sociologue et politologue émérite. Cette thèse est taxée sur les contenus des enseignements civiques et moraux dans les écoles publiques et privées, sous le modèle de la citoyenneté républicaine, en opposition avec le modèle auparavant promu par la religion catholique. On y observe notamment le lien entre le civisme et le catholicisme. Donc ce thème de l'éducation est d'ailleurs très en lien avec notre interview du jour. Le deuxième point qu'on peut aborder au sujet d'Yves Deloye, c'est que c'est un politologue français, auteur de nombreux ouvrages que malheureusement je n'ai pas tous lus, tels L'acte de vote, Sociologie historique du politique ou encore École et citoyenneté. Les sujets de prédilection d'Yves Deloye sont donc la sociologie historique du politique, la sociologie de l'acte du vote ainsi que la construction de la citoyenneté. Par ailleurs, directeur de la revue de sciences politiques depuis 2009, Yves Deloye est un homme très occupé. Pour notre dernier point, on peut mentionner que Yves Deloye est un enseignant-chercheur. Il a tout d'abord été maître de conférences à l'Institut de sciences politiques de Paris, avant d'enseigner à l'IEP de Strasbourg, puis à celui de Bordeaux, dont il a été le 8e directeur de 2016 à 2021. Il y enseigne d'ailleurs toujours, en même temps qu'il est également professeur à l'Université de Paris-Sorbonne.
Yves Deloye, nous sommes actuellement dans votre bureau, au cœur de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, appelé Sciences Po Bordeaux. Et pour venir à votre rencontre, nous avons traversé l'atrium qui se trouve juste derrière vous, un véritable lieu de vie de l'école. Mais plus que ça, c'est un espace lumineux, c'est un espace agréable avec des espaces verts, des lieux de détente pour les étudiants. Mais pour autant, à 100 mètres seulement, il y a l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui est reconnue comme l'une des universités les plus laides de France. Et là, il n'y a pas d'atrium, mais plutôt des bâtiments, parfois délabré, mal équipé et mal isolé. Il semble alors que les inégalités de la crise et la crise de l'enseignement supérieur soient faciles à trouver. Ainsi, former les futurs employés, patrons et travailleurs est un enjeu majeur de n'importe quel état. En guise d'introduction, Yves Deloye, quel regard portez-vous sur l'enseignement supérieur français ?
Alors, on nuancera évidemment sur deux points, c'est-à-dire que si l'IEP, je dirais, bénéficie évidemment de ces conditions-là, c'est parce que son bâtiment a été récemment restauré. Vous seriez venu il y a 5 ans, vous n'auriez pas du tout eu cette image-là. Hein. Par ailleurs, il est heureux, même si c'est insuffisant, que l'Université Bordeaux-Montaigne bénéficie aujourd'hui du plan campus qui permet effectivement à cette université de voir un certain nombre de ses installations quand même être remises en conformité, je dirais, avec les exigences de l'enseignement tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais cette disparité traduit bien quand même le fait qu'il y a de la part de notre tutelle, donc le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, probablement eu un vrai souci en termes de continuité dans les investissements sur le système éducatif universitaire français. Ce système est toujours en difficulté du fait que le nombre d'étudiants n'a cessé de croître depuis une trentaine d'années. Il va encore croître pendant quelques années et je pense que les capacités d'encadrement, les capacités d'accueil des établissements universitaires n'ont absolument pas suivi, faute effectivement de disposer d'un investissement public qui soit à la hauteur des besoins. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, le budget de l'enseignement supérieur est un budget important, c'est un budget qui a connu des évolutions positives ces dernières années, mais simplement le taux d'évolution de ce budget évidemment n'est pas à la hauteur des évolutions de la démographie universitaire, notamment du point de vue immobilier. De très nombreuses universités n'ont pas les moyens d'entretenir, de rénover, d'agrandir, de moderniser sur leurs propres fonds. Il n'empêche quand même que de nombreux établissements universitaires font l'objet, heureusement, d'une politique d'investissement qui ont permis effectivement de rattraper une partie du retard. Le souci, c'est qu'il fallait non seulement rattraper le retard, mais aussi s'adapter à la démographie universitaire. Et comme je l'ai indiqué, cette démographie, elle est galopante. Il se crée en France en moyenne une université tous les 2 ans. Ben, tous les 2 ans, on a 20 à 20 à 30 000 étudiants de plus. C'est une bonne chose. Hein. Ça veut dire, bien sûr, que de plus en plus d'élèves franchissent la frontière de l'enseignement supérieur, qu'il y a de plus en plus de bacheliers, que ces élèves, si possible, je dirais, sont de plus en plus assidus et performants à l'université. Donc tout ça, évidemment, est positif. Il n'empêche, évidemment, qu'il faut être en capacité de les accueillir, de les encadrer, de les mener, je dirais, à la réussite. Et ça, on peut penser qu'il y a, de ce point de vue-là, un engagement de l'État qui n'est peut-être pas à la hauteur, je dirais, de ce qui serait nécessaire.
Yves Delat, vous venez de nous parler de performance, et c'est pourquoi, pour ce premier point, on va vous parler d'un indicateur qui est assez connu ces dernières années. En effet, il est attendu tous les ans, et c'est devenu le critère pour définir le prestige d'une université. C'est le classement de Shanghai qui ordonne chaque année les 500 meilleures universités au monde. L'an dernier, 27 universités françaises y figuraient. Pour autant, ce n'est pas leur nombre qui gêne, mais c'est plutôt le fait qu'elles baissent dans cette hiérarchie d'année en année. Donc notre question, c'est la suivante. Ce classement est-il vraiment révélateur d'un problème français, et si oui, existe-t-il des inspirations étrangères qui seraient intéressantes d'importer en France ?
Oui et non. Très clairement, le fait que les universités françaises ne réussissent pas aussi bien que le ministère le souhaiterait à être effectivement en tête de classement, ou tout au moins à avoir une position dans ces classements qui soit relativement pérenne et éventuellement en augmentation, s'explique pour partie par les difficultés que j'ai évoquées. On a investi beaucoup d'argent hein, sur un certain nombre d'universités dites d'excellence. Le budget de l'enseignement supérieur aujourd'hui, il se décompose à minima entre 2 sources. Hein. Il y a le financement pérenne des universités, ce qu'on appelle la subvention pour charge de service public. Hein. Tout établissement public, compte tenu des objectifs qui sont les siens, bénéficie de la part de l'État d'une subvention qui est votée par le Parlement hein, dans le cadre de la loi budgétaire. Il est intéressant de noter hein, que cette subvention hein, de 2016 à aujourd'hui a baissé de 2,3%, alors que le nombre d'étudiants a lui augmente probablement de 10 à 12%. Si on rajoute le fait que l'inflation a grignoté quand même une partie de cette subvention pour charge de service public, le décalque n'est pas de 2,3%, il est probablement beaucoup plus important. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un souci, c'est que pour être performant, comme vous l'avez dit, il faut que les établissements aient des marges de manœuvre financières qui leur permettent de doter leurs enseignants des équipements qui leur permettent d'être au point de la recherche, d'embaucher et de mobiliser des chercheurs en nombre qui permettent là encore d'être en capacité de produire une connaissance qui soit la plus forte possible. Donc tout cela effectivement rend difficile hein, le fait que la France soit de manière pérenne dans ses classements dans des positions élevées. Alors en même temps, il ne faut pas non plus considérer que ces indicateurs en termes de classement soient des indicateurs complètement, je dirais, satisfaisants. Le classement de Shanghai, il est fait à partir d'un modèle d'université qui ne correspond pas au modèle historique des universités françaises. Pour partie en raison effectivement du fait que les universités françaises, elles ont 2 missions qui peuvent rentrer, je dirais, en tension, qui est une mission d'enseignement et d'enseignement de masse, et qui suppose effectivement là, d'investir énormément d'argent pour accueillir dans de bonnes conditions les étudiants, mais qui n'est pas, dans le classement de Shanghai, pondéré de manière très forte. Ce qui fait que vous mettez sur le même niveau des énormes universités qui accueillent les étudiants, et c'est une très bonne chose, avec des petits établissements qui ont évidemment un périmètre d'étudiants beaucoup plus réduit. Dès lors, on peut évidemment comprendre que ces établissements à périmètre réduit aient plus de chances d'être classés parce qu'eux, ils peuvent consacrer une partie des moyens que nous consacrons à l'accueil des étudiants à la politique de recherche de ces établissements. Ce qui fait que si vous regardez les 10-15 premiers classés, ce sont souvent des établissements de taille beaucoup plus réduite que la moyenne d'un établissement français, avec des problématiques, je dirais, qui privilégient la recherche par rapport à l'enseignement. Et donc, nous, le choix démocratique qui a été fait d'accueillir effectivement tous les étudiants qui le souhaitent, contrepartie, c'est que l'argent qu'on met évidemment dans l'encadrement et dans l'accompagnement de ces élèves, on ne peut pas le mettre dans des politiques de recherche. Donc, par rapport aux critères, je dirais, du classement de Shanghai, les universités françaises sont évidemment dans une situation qui rend la concurrence assez inégale. De fait, alors, si on rajoute le fait que ce classement, il fonctionne pour les universités plutôt scientifiques que les universités de sciences humaines et sociales, très clairement, le compte n'y est pas et je crois qu'il ne faut pas non plus accorder à ce classement une place trop importante.
Par ailleurs, Fabien et Loire, dans le classement de Shanghai Histoire, Analyse et Critique, disaient que ce classement contribuait à créer artificiellement les conditions d'un marché des universités. Et vous l'avez dit, Yves Deslois, on a notamment des critères qui font que des universités sont avantagées par rapport à d'autres. On peut notamment citer les universités anglophones, que ce soit américaines ou anglaises. Fabien et Loire a par ailleurs parlé lui aussi d'une création, d'une marchandisation de l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas vraiment dans les valeurs que pourraient promulguer ces universités. Et par ailleurs, il réduit un établissement à sa position académique, tandis que ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait attendre d'une université, puisque l'érudition est plus humaine. Son rôle n'est pas vraiment de créer des travailleurs technocrates.
Alors, on vous a posé deux questions d'introduction. On va passer maintenant à la première grande partie de notre interview. Mais avant cela, je voudrais remercier tous les membres de l'équipe du Géopolitique qui nous ont permis de réaliser cette interview. Autant Lamia et Antoine qui ne sont pas là aujourd'hui autour de la table, mais Anna et Émilie qui vont s'occuper de la communication. Et puis Léonard qui, comme à son habitude, est derrière ses ordinateurs avec passion, j'ai envie de dire. La première question donc que j'avais à vous poser à propos de ce sujet de l'enseignement supérieur, la voici. Comment, selon vous, la concurrence internationale entre les universités affecte-t-elle la qualité de l'enseignement supérieur et puis bien évidemment la mobilité des étudiants à l'échelle mondiale?
Commencer par la deuxième partie de votre question. Effectivement, l'une des raisons d'être du classement de Shanghai, c'est d'orienter effectivement le flux des étudiants internationaux. Et donc de leur donner un indicateur qui leur permette effectivement d'apprécier la qualité des cursus et des établissements et leur permettre de choisir, le cas échéant, l'établissement qui leur propose effectivement le cursus ou le curriculum le plus intéressant. Alors, ça contribue effectivement à une marchandisation, mais qui est une réalité de l'université au niveau international. C'est-à-dire qu'on peut évidemment, nous, en tant que Français qui avons une conception de l'université comme service public, contester, la critiquer. Il n'empêche que si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes au Chili, si vous êtes dans un certain nombre de pays asiatiques aujourd'hui, l'enseignement supérieur est essentiellement proposé par des établissements privés qui donc ont une logique économique qui est qu'ils ont besoin évidemment de ressources pour pouvoir fonctionner. Et donc de ce point de vue-là, le classement de Shanghai permet d'organiser ces flux internationaux et permet peut-être effectivement à un certain nombre d'étudiants de trouver effectivement un établissement qui correspond à leurs attentes. Mais évidemment, ça ne fonctionne que pour ceux qui ont les moyens d'acheter cette marchandise, parce que les cursus coûtent relativement cher. Ça, on ne le mesure pas en France, puisque le prix que payent les étudiants ne correspond pas du tout, je dirais, au coût de la formation qu'ils suivent, quel que soit le prix qu'ils payent. Et donc, les classements de Shanghai fonctionnent, les classements de manière générale, celui de Shanghai et d'autres, fonctionnent effectivement dans un monde qui n'est pas le nôtre de ce point de vue-là. Alors, quels sont les effets du classement de Shanghai sur nos pratiques à nous? Là encore, je crois qu'il est très difficile de le mesurer avec rigueur. Un des effets tient effectivement à un effet en termes de communication. Alors, je ne vais pas résumer le classement de Shanghai en effet de communication, mais il est clair que lorsque le résultat de Shanghai est publié, au moment de la rentrée, aussi bien les présidences d'université que le ministère de l'enseignement supérieur communiquent beaucoup sur ces classements, parce que ça permet effectivement de mesurer sur une échelle que l'on pense ordinale, alors qu'elle ne l'est évidemment pas, les performances des établissements français comparés aux autres établissements. Et plus on se rapproche effectivement du haut du classement, plus on considère que la France est un pays effectivement qui compte du point de vue de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais comme je l'ai dit, c'est pas ordinal, au sens où effectivement on ne peut pas comparer des établissements qui ne sont pas comparables. Et les critères qui servent à ces classements sont souvent extrêmement discutables du point de vue du service rendu aux étudiants, qui ne sont pas toujours pris en considération. Donc moi, je pense qu'il y a eu un excès, je dirais, d'intérêt par rapport à ces classements. Outre que ça ne concerne qu'une partie du paysage académique français, puisque c'est oublié évidemment tous les établissements, IEP compris, de sciences humaines et sociales, puisque là, évidemment, dès lors que vous n'enseignez pas dans des disciplines nobélisables ou avec des médailles reconnues internationalement, de facto, vous perdez quasiment toute probabilité d'être pris en considération. En plus encore, si vous êtes un tout petit établissement, quelle que soit la qualité de la formation et des dispositifs mis en place. Donc je pense qu'on y accordait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Ça a été un moyen aussi d'orienter des budgets non négligeable vers justement certains établissements et donc de créer une inégalité entre établissements. C'est-à-dire que les établissements les mieux classés sont aussi souvent les établissements les mieux soutenus. Mais pour autant, il y a une vraie élasticité entre le montant du soutien et le classement obtenu. Et ces dernières années, effectivement, le ministère de l'enseignement supérieur, à travers des programmes d'excellence, a essayé de pousser le classement, je dirais, des établissements français dans ces classements, avec un résultat qui est quand même mitigé. Si souvent les établissements français sont mieux classés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a une dizaine d'années, c'est parce qu'ils ont fusionné. De fait, on ne compare pas du tout les mêmes établissements. Évidemment, à un moment donné, quand vous augmentez la taille de l'établissement, ben, vous avez la perspective d'être mieux classé parce que vous risquez effectivement avec une probabilité plus élevée d'avoir des prix Nobel, des médailles Fields, d'avoir tel ou tel type de financement, tel ou tel type de performance. Mais de fait, on a effectivement là été obligé de fusionner avec des effets sur les établissements, sur les personnels, sur les étudiants qui sont absolument pas pris en compte par les classements. Ça, il me semble effectivement très délicat de porter un jugement définitif sur l'effet de cette restructuration de l'enseignement supérieur. Si cela permet à la fois d'améliorer notre classement et la qualité des formations et du bien-être des élèves, pourquoi pas ? Vous comprendrez que pour le moment, je laisse ce diagnostic en suspens.
Alors, il ne vous aura pas échappé que notre podcast est avant tout de géopolitique, alors je me permets de vous poser une question sur le plan un peu plus international. Selon vous, comment l'éducation supérieure est-elle utilisée comme un outil de diplomatie publique, terme inventé par James Lord, et quelles sont les implications de cette utilisation pour les relations internationales ?
Alors, je pense que c'est effectivement une dimension importante, hein, d'un établissement d'enseignement supérieur a vocation, je dirais, à engager une politique internationale, au sens d'une politique de formation internationale, hein, c'est pas un acteur diplomatique, hein, mais d'avoir une vraie politique d'internationalisation, ce que l'IEP a fait depuis déjà évidemment plusieurs décennies. Et cela, évidemment, a un effet qu'il est difficile de mesurer, mais qui est assez, je dirais, plausible. Le fait, effectivement, de mettre dans le même amphithéâtre des élèves ayant des origines nationales différentes, d'avoir des brassages, hein, d'avoir la possibilité d'avoir une expérience universitaire à l'étranger. Tout cela, évidemment, contribue à former des citoyens, des cadres, hein, ultérieurement, qui auront effectivement une vision de l'international qui est tout à fait bénéfique, je dirais, pour l'avenir de nos sociétés. Donc il y a évidemment un effet qui est induit. Après, on a parlé des inégalités qui existent entre établissements. L'internationalisation est probablement l'une des politiques les plus inégalitaires qui soit. Que ce soit l'établissement a les moyens, je dirais, de mettre en œuvre une politique internationale et de faire en sorte que tous les élèves, je dirais, y soient associés, soit l'établissement, parce qu'il compte 45 000 étudiants, qu'il a des difficultés budgétaires qu'on a expliqué. Et là, évidemment, l'internationalisation devient très très vite un leurre parce que certains établissements peuvent se permettre cette internationalisation. D'autres vont le réserver à certains publics plutôt qu'à d'autres. Et là, il y a un vrai souci d'accès effectivement équitable à cette dimension internationale.
Pour réagir à votre réponse, je vais me permettre de citer James Lord justement qui nous a dit « Trop souvent considéré comme un instrument auxiliaire de la puissance nationale, la diplomatie publique peut en réalité grandement contribuer aux politiques de l'enseignement supérieur. » Alors pour être tout à fait précis, parce qu'on adore ça dans la géopolitique, cette citation est extraite de « Diplomatie publique et soft power » au sein du magazine Politique américaine, paru en 2005, des pages 61 à 72, pour être fondamentalement dans la précision. Alors autrement dit, l'auteur ici anticipe le paysage que nous connaissons aujourd'hui de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire une instrumentalisation parfois de certaines grandes écoles dans le rayonnement des grandes puissances, à l'image de l'université d'Harvard aux États-Unis, ou bien dans une autre mesure de la Sorbonne en France. L'enseignement supérieur a un rôle à jouer donc dans la diplomatie et dans la géopolitique internationale, et plus précisément encore dans trois thèmes. La recherche, bien évidemment, puisque c'est souvent le lieu d'exercice des chercheurs, nous allons en reparler dans une prochaine partie. Dans l'innovation, puisque les universités peuvent attirer des talents étrangers, ce sont les phénomènes de brain drain, c'est-à-dire le fait d'aller récupérer des talents étrangers et de les amener à étudier ou à travailler par la suite dans un pays, c'est évidemment les États-Unis qui sont très présents dans ce phénomène-là. Et puis aussi, l'enseignement supérieur peut être important dans la géopolitique internationale en permettant le développement de certains pays plus pauvres. C'est le cas de l'Inde qui a beaucoup misé dans cette politique. Et effectivement, comme on le croyait déjà au XVIIIe siècle, le savoir, parfois, peut faire avancer le monde plus que beaucoup d'autres choses. En tout cas, c'est ce que l'Inde essaye de faire. À présent, nous allons vous proposer quelques questions. C'est Manon qui va s'en charger. C'est un moment, on va dire, un peu plus léger de notre émission. Je vais te laisser faire. T'es un petit peu plus doué que moi pour ça.
Alors Yves Deslois, on a emprunté ce concept à d'autres émissions et ce qu'on va faire maintenant, c'est quelque chose qu'on va appeler le « vous préférez ». On va donc vous proposer deux thématiques, deux personnalités, deux objets et vous allez devoir en 60 secondes répondre au plus grand nombre de thématiques. Est-ce que vous êtes prêts ?
Je suis prêt.
Alors en premier, Max Weber ou Émile Durkheim ?
Ah, très choix cornélien, Max Weber.
Antoine Dupont ou Kylian Mbappé ?
Antoine Dupont.
Simone Veil ou Gisèle Halimi ?
Là aussi, choix cornélien, Gisèle Halimi.
Sociologie ou sciences politiques ?
Sciences politiques.
Bordeaux ou Paris ?
Libourne.
Ski ou snowboard ?
Alors ski.
Scrutin majoritaire ou scrutin proportionnel ?
Proportionnel.
Train ou avion ?
Train.
Cinéma ou littérature ?
littérature.
Réseau de transport bordelais ou marche à pied?
Marche à pied.
Arte ou Netflix?
Arte.
Musique techno ou musique classique?
Classique.
Spotify ou Deezer?
Deezer.
Et figurez-vous, je n'ai plus de questions, vous avez été très rapide.
Ouais.
Bravo Udélois.
Combien?
47 secondes.
Ah, pas mal, hein.
On va continuer cette interview avec la thématique du financement et des ressources. Pour cette quatrième question, puisque vous avez été le directeur de Sciences Po Bordeaux, vous allez pouvoir nous éclairer sur le point sensible que sont les financements. Comment les universités gèrent-elles leurs ressources ainsi que leurs dons et quelles en sont les conséquences directes?
Alors bon, malheureusement les universités ont relativement peu de dons, hein. Exception de quelques établissements, je dirais universitaires anglo-saxons dont on a parlé, qui ont effectivement des anciens élèves qui sont particulièrement en capacité de faire des dons et des legs, hein. La plupart des universités françaises ne disposent, je dirais, de fondations que de manière extrêmement récente et n'ont une capacité, je dirais, à lever des fonds issus de dons qui sont relativement faibles. En tout état de cause, c'est évidemment pas sur ce plan-là que le financement est largement rendu possible. Les universités, hein, ont deux à trois sources, je dirais, de financement. La première source, qui est historiquement la plus importante, même si sa part peut varier d'un établissement à l'autre, c'est l'ensemble des subventions publiques que reçoivent un établissement d'enseignement supérieur. Il faut savoir, hein, une grande partie des enseignants, comme des personnels administratifs, hein, des établissements d'enseignement supérieur, sont des fonctionnaires. Donc à ce titre-là, évidemment, sont payés par le budget de l'État. Et évidemment, un établissement d'enseignement supérieur ne pourrait pas, évidemment, financer ces personnels-là s'il n'avait pas, évidemment, le soutien, je dirais, de sa tutelle. La tutelle, donc l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, finance également un certain nombre de crédits dits de fonctionnement, c'est-à-dire ce qui nous permet, effectivement, d'acheter un ordinateur, une table, d'avoir de l'électricité, du chauffage, ben, tous ces flux qui représentent des sommes très, très importantes, hein, aujourd'hui, sont financés, évidemment, par des subventions pour le fonctionnement des établissements. Alors de manière plus ponctuelle, et c'est la deuxième source de financement, vous avez des financements qui sont liés à des opérations ponctuelles, notamment en matière de recherche. Nous avons aujourd'hui des agences de financement, l'ANR, hein, l'Agence Nationale de la Recherche, qui régulièrement lance des appels à propositions qui permettent effectivement aux établissements d'enseignement de faire des projets qui, s'ils sont retenus, font l'objet d'un financement spécifique, associé à une opération ponctuelle qui peut durer plusieurs années, hein, bien sûr, mais qui affecte effectivement ces fonds, parfois important, ça peut être des millions d'euros, hein, sur une opération de recherche ou sur une opération associée à une formation, parfois. Ça a eu tendance à se développer ces dernières années, c'est-à-dire si la subvention pérenne reste relativement stable et devient de plus en plus, je dirais, en porte-à-faux avec les besoins des établissements, par contre, la part variable associée à ces projets augmente parce qu'on a un phénomène d'agencification qui fait que, de plus en plus, je dirais, pour piloter l'enseignement supérieur, on choisit effectivement des projets plutôt que d'autres pour orienter dans un sens la politique de l'enseignement supérieur. Et puis, il y a une troisième source de financement pour les établissements, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, les ressources propres. C'est-à-dire le fait que les établissements d'enseignement supérieur puissent mettre en place une politique de droit d'inscription ou une politique de formation continue, c'est-à-dire mettre en place des formations qui vont être vendues en tant que telles à des opérateurs, que ce soit des collectivités territoriales, des entreprises, des syndicats, des associations. Et donc, à travers effectivement les activités qui sont les siennes en matière de formation, parfois en matière de recherche, les établissements d'enseignement supérieur ont développé depuis assez longtemps maintenant une politique qui vise à augmenter la part des ressources propres dont ils bénéficient. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la seule façon pour les établissements d'enseignement supérieur de déroger à la contrainte budgétaire. On le sait, pour des raisons sur lesquelles je n'insiste pas, l'État n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Il ne le reconnaît pas forcément, mais il n'en a pas les moyens. Et dès lors, soit on considère effectivement qu'on va travailler avec ce que nous donne l'État, donc en fait on va travailler dans une situation qui va se dégrader progressivement. La somme que l'État consacre à chaque étudiant baisse. L'augmentation du nombre d'étudiants n'étant pas accompagnée par une augmentation de la subvention, ben forcément, l'enveloppe disponible par étudiant baisse d'année en année. Elle baisse d'autant plus que l'inflation est redevenue effectivement particulièrement élevée ces dernières années. Donc soit, évidemment, on est dans ces situations-là et on a un appauvrissement de l'enseignement supérieur, ce qui fait que les conditions d'accueil des élèves dans 10 ans seront nettement moins bonnes que celles que nous offrons aujourd'hui. Et la plupart des gens qui sont en responsabilité dans l'enseignement supérieur sont suffisamment lucides pour penser que c'est pas demain que l'État
aura les moyens de les accompagner. Alors on peut le regretter, on peut regretter des arbitrages, hein. On peut regretter que l'armée ait un budget sensiblement supérieur à l'enseignement supérieur, qu'il y ait de la fraude fiscale qui fasse que l'État se prive de ressources en milliards d'euros et que ces milliards pourraient être affectés bien sûr à des dépenses utiles. Reste que la situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, on peut toujours espérer, mais ça n'est pas évidemment sur des croyances et des espoirs que l'on fonde une politique éducative. Et donc dans ce cas-là, on est par réalisme amené évidemment à envisager un développement des ressources propres, qui est l'une des rares manières pour les établissements de continuer à grandir et à se développer. Alors tous les établissements n'ont pas la même volonté de développer les ressources propres. Beaucoup d'universités ne veulent pas entendre parler, par exemple, d'une augmentation du droit d'inscription à l'université. Or, on sait aujourd'hui qu'avec le droit tel qu'il est prévu dans les universités, la part de recettes propres associée à ces droits d'inscription est totalement anecdotique dans le budget de fonctionnement et de mise en œuvre, évidemment, d'une politique d'enseignement supérieur. Puis, il y a d'autres établissements, les IEP, mais ce n'est pas seulement les IEP, qui ont fait, effectivement, un choix d'équilibrer leurs ressources à travers, effectivement, une politique de droits d'inscription qui soit dérogatoire. Les IEP ont toujours eu des budgets par tête d'étudiant très, très faibles. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire de ces établissements, au fait qu'ils étaient rattachés à des facultés et que pendant très longtemps, on a pensé qu'ils n'avaient pas besoin de budget propre. Donc, lorsqu'ils se sont autonomisés, ils se sont autonomisés souvent dans des conditions budgétaires extrêmement contraignantes, beaucoup plus que les établissements universitaires. Et très très vite, les responsables de ces établissements ont compris que la seule façon, je dirais, de desserrer cet étau et de se développer, c'était de développer effectivement une politique de ressources propres spécifiques.
Yves Deslois, on voulait également aborder avec vous l'implication géopolitique du financement des grandes écoles, puisqu'en effet, vous avez mentionné Sciences Po Paris, l'IEP de Paris, et on a trouvé comme exemple Franck McCourt, qui est l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille, donc américain, et qui a largement contribué à l'équilibre des comptes donc, de Sciences Po Paris, après la construction du campus premier de Saint-Thomas, avec un nom de près de 25 millions d'euros sur 10 ans. Qu'est-ce que vous, globalement, pouvez nous dire sur cette implication géopolitique dans le financement des grandes écoles?
Alors ça, c'est tout à fait nouveau en France. Si vous vous promenez sur les campus nord-américains, vous verrez très souvent des bâtiments universitaires qui portent le nom de leurs donateurs. Et donc, il y a des modèles universitaires dans lesquels, effectivement, une partie des bâtiments universitaires sont financés par les dons généreux d'anciens élèves ou de personnes qui veulent, à un moment donné, marquer de leur empreinte une orientation pédagogique universitaire particulière. Donc ça, c'est relativement banalisé dans toute une série de systèmes. C'est pas nouveau. En France, c'est très très rare. Nous avons des amphithéâtres qui portent des noms, mais ce ne sont pas des noms de donateurs. C'est nous qui avons donné le nom aux amphithéâtres, mais Montesquieu ne nous a pas donné le moindre centime pour l'amphithéâtre qui porte son nom. Alors ça se développe. Moi, je pense effectivement que, là encore, c'est le reflet d'une certaine forme, je dirais, de défaillance de l'État. On peut penser effectivement que si cette politique se généralisait, elle aurait effectivement comme effet, là encore, de renforcer deux points négatifs, c'est-à-dire tous les établissements ne sont pas à égalité pour attirer des mécènes. Les mécènes financeront probablement plus un établissement parisien qu'un établissement provincial, et à l'intérieur de la province, probablement plus un établissement qui est porteur d'un certain nombre de valeurs avec lesquelles il adhère, de formation dans laquelle il se reconnaît, que d'autres établissements. Donc il y aurait très très vite une égalité complémentaire entre les établissements qui peuvent effectivement faire advenir ce type de mécénat et les établissements qui ne le peuvent pas. Et puis surtout, je pense qu'à terme, ça voudrait signifier le fait que l'État n'est plus en capacité de financer les bâtiments universitaires. Là, l'exemple que vous donnez est anecdotique. C'est un bâtiment sur un très gros campus parisien. Il y a des bâtiments tout autour, il y a des bâtiments dans les autres rues de Sciences Po. C'est une toute petite partie, je dirais, du bâti de Sciences Po qui est associé à cette politique. Mais quelque part, ça dit des choses quand même effectivement d'une évolution. Alors, il faut évidemment reconnaître que d'un point de vue historique, Sciences Po a bénéficié dès son origine en 1945 d'un don immobilier très très important puisque les bâtiments de la rue Saint-Guillaume sont ceux que les fondateurs de l'École libre des sciences politiques, qui est une société d'actionnaires, versent au moment de la nationalisation de l'école au patrimoine de la Fondation nationale des sciences politiques. Donc Sciences Po, d'une certaine manière, est habitué à ce type de logique. Mais en dehors, je dirais, de cette fondation, il y a très très peu de fondations universitaires en France, et encore moins de fondations universitaires ayant évidemment une ambition immobilière de ce type.
On voudrait que les universités offrent des débouchés à leurs étudiants, portent remède à l'échec massif en premier cycle, tout en continuant à se démocratiser. Mais peut-on atteindre ces objectifs et conserver la quasi-gratuité de l'enseignement supérieur, les subventions de l'État aux universités, qui sont insuffisantes, ont peu de chances de beaucoup augmenter à l'avenir? C'est un constat qui ressemble au vôtre et c'est Robert Garibobo qui l'a écrit. Selon lui, il faudrait plutôt s'inspirer de l'Australie et du Royaume-Uni qui ont mis en place des modèles radicalement différents que le modèle français. Il repose donc sur des droits d'inscription élevés, sorti d'un système généralisé de prêts aux étudiants, un système donc qui pose des problèmes puisque le remboursement est conditionné par leurs revenus futurs. Robert Garibobo plaide pour une réforme inspirée de ce modèle en France, mais elle donnerait des moyens de se développer à une université française en grave difficulté financière et qui conduirait donc beaucoup d'étudiants dans l'impasse. Évidemment, cette réforme réduirait à néant les efforts de la justice sociale et de réduction des inégalités en plaçant le principe très français de méritocratie en dessous de celui des ressources financières des parents notamment. Alors cette citation de Robert Garibobo m'offre une transition parfaite vers le dernier thème de notre interview, c'est l'accès à l'éducation. Selon vous, comment les inégalités socio-économiques influencent-elles l'accès à l'enseignement supérieur et quelles en sont les répercussions politiques justement de ces inégalités ?
La mesure des inégalités sociales en matière d'éducation est une mesure qui est aujourd'hui parfaitement renseignée. Nous avons depuis 50 ans, je dirais, de très très nombreuses études qui confirment que le système scolaire, tout d'abord français, et le système universitaire ensuite, est traversé par des inégalités sociales tout à fait, je dirais, majeures et que d'une certaine manière, d'ailleurs, ces inégalités ont plutôt tendance à croître qu'à décroître. De ce point de vue-là, il faut être conscient, évidemment, que ça commence très 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 tôt, c'est-à-dire que une grande partie des inégalités que nous connaissons naissent dès le système de l'école primaire. Dès ce moment-là, on a malheureusement une probabilité de poursuivre ses études au lycée, puis dans l'enseignement supérieur, qui décline en fonction évidemment de la position sociale des ressources des parents. C'est pas le seul critère, hein, le fait d'être enfant de migrants ou pas, enfin, il y a d'autres critères. Donc, soit évidemment, on va vers un système comme celui que vous évoquiez, dans lequel effectivement, de ce point de vue-là, on se satisfait de ces inégalités, parce que très clairement, à partir du moment où les étudiants sont obligés d'emprunter pour financer les formations qu'ils suivent, on peut se douter effectivement que très très vite, vu le coût de ces formations, un certain nombre évidemment ne sont pas soutenables financièrement. Et donc les établissements bancaires qui sont loin d'être des établissements, je dirais, toujours empathiques avec leurs clients, ne suivront évidemment pas et obligeront évidemment un certain nombre d'élèves à se censurer en matière d'enseignement supérieur. Donc il nous faut trouver effectivement une solution différente. Je pense que penser aussi que la ressource publique est infinie n'est pas très réaliste. Alors on peut me taxer de conservateur, hein, mais quelque part je pense qu'on est tous conscients effectivement quand même de l'importance des déficits en France. Il y a probablement des réformes à faire pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires, mais on mesure combien d'élections en élections, c'est complexe de trouver ces marges. Donc l'idée, je dirais, qu'il faut défendre, c'est de maintenir évidemment un niveau très élevé, je dirais, de ressources publiques, d'abonder, je dirais, cela par un système de droits d'inscription progressif. Personnellement, en tant qu'ancien directeur de l'IEP, je n'ai pas de scrupules, je dirais, à assumer le fait que certains élèves de l'établissement payent des droits d'inscription relativement élevés. Alors ça peut paraître relativement élevé dans l'absolu, hein, payer 6 000 euros de droits d'inscription, c'est une somme importante. Rapporté aux revenus des parents, c'est une somme relativement, je dirais, indolore. Je rappelle déjà qu'un tiers des élèves de l'IEP ne payent aucun droit, et que sur les 2/3 qui payent des droits, la très grande majorité d'entre eux payent un droit qui est inférieur à 2 000 euros annuels. Bon, c'est important, 2 000 euros. Mais si nous n'avons pas cette ressource-là, une grande partie, je dirais, de la formation s'écroule. On ne vous fait pas partir à l'étranger. On ne met pas en place une politique d'égalité sociale, j'y reviendrai. Vous n'avez pas cet atrium, vous n'avez pas la qualité de vie qui est la vôtre. Donc, je pense qu'il y a clairement le besoin pour les établissements d'enseignement supérieur d'avoir effectivement une politique de droit d'inscription qui tienne compte de la capacité financière des parents. Je préférerais que tout soit gratuit et que tout soit financé par l'État, mais bon, quelque part, je me doute que ça n'est pas très réaliste. Et si on ne veut pas, par rapport à l'exemple que vous aviez pris tout à l'heure, avoir des campus qui deviennent effectivement des campus dégradés au fil du temps, il faut à un moment donné qu'il y ait une ressource qui le permette effectivement d'engager cette politique. Alors, elle doit être associée, cette politique, avec effectivement un certain nombre de mesures de justice sociale qui la justifient. Tout d'abord, évidemment, de faire payer en fonction des revenus. Il faut aussi qu'une partie de cet argent-là soit redistribuée à des fins de politique sociale.
C'est ce que fait l'établissement, puisque une partie des droits finance un fonds social qui a été mis en œuvre en 2016, qui permet d'aider les élèves justement qui ont des soucis financiers. L'idée, c'est celle-là, c'est-à-dire de mettre en place effectivement un certain nombre de dispositifs d'ouverture sociale et d'accompagnement social qui permettent effectivement aux écoles qui ont ce mode de fonctionnement, à la fois sélectif et d'avoir des droits différenciés, de continuer à accueillir des élèves ayant des caractéristiques sociales différentes. Je pense qu'il n'y aura rien de pire pour une école comme la nôtre, et pour les IEP de manière plus générale, que de constater à un moment donné que les parents de nos élèves ont fait Sciences Po, que les grands-parents de nos élèves ont fait Sciences Po, et là, effectivement, il faudrait qu'on s'interroge sur la nécessité de poursuivre, je dirais, l'aventure. À partir du moment où on a encore le sentiment qu'on accueille en nombre des élèves dont les parents n'ont pas fait forcément d'études supérieures, là, on a un modèle relativement équilibré, c'est-à-dire on est à la fois une école du service public, et donc on est évidemment encore très largement financé par des fonds publics, et on met en place des mécanismes qui permettent d'étendre la contrainte budgétaire tout en assumant une politique d'ouverture sociale. Et moi, je suis certain que cet établissement peut continuer, je dirais, son ouverture sociale, tout en permettant effectivement de mettre en œuvre une qualité de formation, de recherche et d'accueil d'élèves qui soit tout à fait soutenable budgétairement parlant.
Nous avons donc parlé des politiques qui sont possibles de mettre en place au sein des universités et des écoles, mais est-ce que vous pourriez par exemple parler davantage des politiques publiques qui pourraient rendre plus inclusive socialement et économiquement l'accès à l'enseignement supérieur en France ?
De fait, la politique mise en œuvre par un établissement comme le nôtre est une politique publique. Nous sommes un établissement public, les décisions que nous prenons participent, je dirais, de l'action publique. Mais je comprends bien la question. Je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de blocages qui pourraient être levés, ou tout au moins d'initiatives qui pourraient être prises. Il y a notamment une question très très importante qui est le fait qu'un certain nombre d'élèves, alors c'est vrai dans notre établissement, mais c'est vrai de manière générale, l'université plus encore, doivent concilier une activité professionnelle avec une activité de suivi des études. Et on sait depuis longtemps que cette conciliation, elle est très complexe, qu'elle produit très souvent un phénomène de décrochage ou de moindre performance, je dirais, universitaire. Et là, effectivement, il y a une question centrale qui est d'ailleurs sur l'agenda, qui est de savoir s'il ne serait pas précieux de mettre en place en France, comme ça se fait dans d'autres pays, un revenu étudiant spécifique. Peut-être variable en fonction encore des origines sociales, parce que je pense qu'il faut aussi être sensible au fait qu'il y a des inégalités entre les élèves, et on peut essayer de compenser évidemment ces inégalités. Et donc, ce revenu évidemment de base étudiant, quel que soit le format qu'il peut prendre, serait une façon effectivement d'accompagner l'autonomisation des élèves et permettre à la majorité d'entre eux de suivre effectivement une activité étudiante sans avoir à multiplier les petits boulots au risque effectivement de pénaliser leurs études. Donc ça, je pense que c'est une réforme qui peut évidemment être envisagée. Alors il y a une autre réforme, c'est qu'il faut, je pense, multiplier les passerelles entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Comme je l'ai dit, une partie des inégalités, elles naissent très très tôt dans l'enseignement secondaire. Et donc, c'est évidemment là des dispositifs qu'on appelle en France les cordées de la réussite, c'est-à-dire le fait d'associer des établissements d'enseignement supérieur avec des établissements encordés de l'enseignement secondaire, voire des collèges. Ça, effectivement, ça se développe beaucoup en France, et j'y crois beaucoup. Nous, on a un programme, vous le savez, qui s'appelle JPPJV, qui est un programme qui permet effectivement de faire ce lien avec des établissements d'enseignement secondaire. Mais il y a dans toutes les écoles et dans de très nombreuses universités des cordées similaires. Et je pense que c'est une façon de raccrocher les wagons et de faire en sorte effectivement qu'on concilie, je dirais, ouverture sociale et excellence scolaire. On peut être issu d'une famille modeste et avoir des compétences et des ambitions universitaires très très élevées. Il faut faire en sorte que tout cela soit possible.
Ces inégalités persistent dans l'accès aux formations et se sont même accentuées de façon insidieuse. Les raisons sont nombreuses. Dégradation de la situation matérielle des étudiants, dualité du système français d'enseignement supérieur, poids de la scolarité antérieure qui détermine l'orientation des jeunes, mais aussi leur réussite. A écrit Gérard Ariéchi dans « Les inégalités dans l'enseignement supérieur, le français aujourd'hui » en 2013. Autrement dit, les inégalités pour l'accès à l'enseignement supérieur ou en son sein sont nombreuses. Un étudiant d'un territoire rural a trois fois moins de chances d'intégrer une grande école qu'un étudiant venant d'une métropole. En 2022, Emmanuel Macron parlait d'un ascenseur social cassé. Ce constat semble de plus en plus vrai. Ouvrons néanmoins nos perspectives et observons qu'il s'agit d'un contrat international, puisque vous parliez tout à l'heure de dette étudiante, et aux États-Unis par exemple, exemple, la dette étudiante est colossale puisque Barack Obama ne l'a remboursée qu'à son arrivée au bureau ovale de la Maison Blanche. Pour poursuivre cette interview Yves Deslois, on va maintenant passer à notre deuxième jeu, donc perspective plus réjouissante. Néanmoins, celui-ci est un peu plus sérieux puisqu'on a préparé quelques papiers qu'on va donc vous donner et vous en piocherez un et vous essayerez de nous en parler. Je vous ai donc donné 6 papiers, ça fait un petit peu rustique comme ça. Et donc vous allez en choisir un, allez-y.
Engagement étudiant.
Très bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet ?
Alors, à la fois des choses, je dirais, théoriques et des choses plus factuelles. D'un point de vue théorique, les études, je dirais, qui sont disponibles hein, sur l'engagement étudiant montrent que cet engagement, il est traversé par un certain nombre d'inégalités. Tous les étudiants ne s'engagent pas. Alors, à la fois parce qu'ils n'en ont pas forcément le temps, parce qu'ils n'en ont pas forcément les ressources. Et donc, cet engagement, il est difficile à mesurer, il n'est pas forcément pérenne dans le temps. Il y a des cycles hein, d'engagement et de désengagement. C'est vraiment quelque chose qui relève plus d'un processus, d'une trajectoire. Et dans ces processus, on a tendance évidemment à montrer que certaines prédispositions à l'engagement créent des inégalités dans cet engagement étudiant. Donc ça, c'est relativement, je dirais, connu. Les IEP, de ce point de vue-là, sont plutôt marqués par un niveau d'engagement qui est plutôt plus élevé que la moyenne. On le voit d'ailleurs au niveau très très simple des résultats de la participation aux élections hein, où le taux de participation des élèves de l'IEP est certes trop faible, hein, mais sensiblement plus élevé que la moyenne des taux de participation dans les autres établissements universitaires. Donc il y a effectivement à l'IEP, pour des raisons qui tiennent probablement aux modalités de sélection de nos élèves, aux dispositions sociales, culturelles qui sont les leurs, à la thématique hein, politique qui est présente dans le titre même de l'établissement. Tout cela fait qu'on a effectivement un niveau d'engagement des étudiants qui est relativement plus élevé. Ceci étant, moi, il m'arrive assez souvent en cours de faire des petits sondages sauvages hein, pour savoir combien d'étudiants ont participé ou participeront à une élection. On s'aperçoit que votre engagement civique est souvent assez faible et que de ce point de vue-là, d'une certaine manière, vous retrouvez les résultats hein, de la sociologie électorale qui aurait tendance à montrer que l'engagement politique des générations actuelles est moindre qu'il ne l'était effectivement d'autres générations. Donc on a de ce point de vue théorique évidemment un certain nombre d'éléments. Alors d'un point de vue plus empirique, moi je pense que l'IEP est quand même un lieu d'une certaine effervescence politique. Il y a quand même effectivement un niveau, je dirais, d'intérêt pour la chose politique qui est quand même relativement élevé. Pas également distribué parmi tous les étudiants, mais il y a très clairement de votre part, et peut-être plus encore aujourd'hui qu'il y a quelques années, un certain nombre de préoccupations qui suscitent votre engagement, que ce soit effectivement les questions environnementales. Ça c'est très clair, et c'est relativement nouveau. Il y a 5 ans, on n'aurait pas eu évidemment ce niveau d'engagement. Alors des engagements qui peuvent prendre des formes qui sont évidemment associées à des modes de vie, beaucoup plus que des engagements politiques stricto sensu. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui est très très présent, mais c'est vrai aussi par rapport à des phénomènes de lutte contre des discriminations genrées, contre les violences sexistes. Enfin, on voit qu'il y a évidemment des problématiques neuves qui sont extrêmement, je dirais, portées par les étudiants, et qui peuvent se traduire d'ailleurs hein, au niveau de nos enceintes, hein, effectivement des prises de parole parfois un petit peu fortes hein, sur ces questions-là, mais probablement justifiées. Donc on est effectivement quand même dans un environnement où la question de l'engagement étudiant est une question, je dirais, présente au point d'ailleurs que nous en tenons compte dans nos principes pédagogiques. Beaucoup quand même de choses sont faites à l'IEP pour que les étudiants puissent s'engager et valoriser hein, l'engagement qui est le leur. Alors il est protéiforme hein, cet engagement, il n'est pas simplement politique. Moi je l'ai évidemment appréhender principalement sous l'angle politique parce que c'est mon métier. Mais clairement, cet engagement, il est aussi lié à des attitudes de solidarité au niveau international, au niveau national, d'engagement à l'égard de vos camarades lycéens. Il y a beaucoup d'engagement, je pense, de la part de nos élèves et on doit se réjouir évidemment de cette dynamique.
Merci beaucoup. On va arriver à la fin de notre interview avec cette fois-ci pour de vrai le dernier thème, puisque vous êtes politiste. Et donc, on va essayer de réfléchir à l'enseignement supérieur et l'impact de la science politique sur l'enseignement supérieur. Ce sera donc ma dernière question. Quelles sont pour vous les dernières avancées de recherche en termes de gouvernement de l'enseignement supérieur ?
Alors ça, c'est une question difficile parce que c'est vrai que la contribution de la science politique à l'analyse des politiques publiques universitaires est à la fois relativement importante et en même temps, c'est quand même une dimension marginale de la contribution de la science politique. La plupart des politistes ne s'intéressent pas, d'un point de vue de la connaissance et de la recherche, aux problématiques, je dirais, de la gouvernance ou des politiques de l'enseignement supérieur. Mais très clairement, si je voulais pointer, je dirais, un des apports, je pense notamment ici aux travaux de Christine Musselin, qui est une collègue qui travaille à Sciences Po Paris sur ces questions-là. C'est toute l'importance, je dirais, d'aborder ces questions-là dans une perspective comparative. C'est-à-dire de voir un petit peu qu'est-ce qui est fait ailleurs, quels sont finalement les bilans des expériences, aussi bien sur les modes de financement que sur les problématiques d'accueil des élèves, que sur la place de l'enseignement supérieur par rapport à d'autres systèmes de formation, à part l'apprentissage ou autre. Et je trouve que c'est extrêmement utile d'avoir ces éléments pour justement essayer d'orienter une politique de l'enseignement supérieur. On peut regretter de ce point de vue-là, mais c'est pas propre à cette partie-là de la discipline. C'est que ceux qui nous gouvernent ne lisent pas la science politique. Si les gouvernants lisaient ce que produisent les universités, cela se saurait. Et le monde serait peut-être différent. Un certain nombre d'alertes qui ont été lancées sur ce que j'ai évoqué précédemment suite à vos questions, le fait que la question de l'excellence était finalement pas forcément pensée de manière égalitaire et équitable. Cela, évidemment, nous le savons parce qu'un certain nombre de travaux comparatifs ont montré évidemment que les pays qui avaient avant nous mis en œuvre ce genre de dispositif avaient à un moment donné connu effectivement une vraie fragmentation de leur paysage universitaire. Donc je pense que si on était effectivement plus en capacité, je dirais, de se comparer à autrui et d'en tenir effectivement compte dans les orientations politiques, on aurait aussi, notamment de ce point de vue-là, une politique de l'autonomie des établissements universitaires sensiblement différente, puisque ça c'est le grand mot des politiques de l'enseignement supérieur depuis une vingtaine d'années, c'est depuis que Mme Pécresse a été ministre de l'enseignement supérieur, c'est de déclarer, je dirais, les établissements autonomes, sauf que je n'ai jamais vu, et à titre directeur, j'ai vécu des établissements, je dirais, autant contraints par les normes, je dirais, de notre ministère. Et donc d'autonomie, il y a, mais elle est quand même pas du tout, je dirais, celle que l'on peut imaginer en Suisse ou ailleurs, dans des pays qui ont effectivement un système d'enseignement supérieur qui n'est pas forcément pensé de manière nationale, mais pensé en fonction de spécificités qui peuvent être territoriales, qui peuvent être sociales, qui peuvent être politiques, qui sont associées effectivement à la diversité et au multiculturalisme, je dirais, de société. Nous, on a un modèle d'autonomie très jacobine, et donc qui continue à penser quand même de manière singulière l'autonomie, singulier au sens de l'absence de pluriel.
Je vous remercie d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions et de nous avoir accordé du temps. Je me permets de rappeler à nos auditeurs que la géopolitique, la semaine prochaine, cela continue de la manière la plus normale, avec de nouveau des chroniques Art Power d'Antoine et la grande réorientation de Lamia qui vont revenir. J'invite aussi nos chers auditeurs à éventuellement réagir dans les différents onglets des communautés, tout en respectant les règles de ces espaces commentaires. Je vous remercie une dernière fois Yves Deloye et à la semaine prochaine Manon pour de nouvelles aventures.
À la semaine prochaine. You say you wanna be a star, but the city is so dense and low.